Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Regardons ensemble, si vous le voulez bien, dans Éphésiens, au chapitre 6. Ce matin, je ne poursuivrai pas encore notre série sur Éphésiens, tout simplement parce que nous allons faire une petite pause au cours des prochaines semaines. Et je ne veux pas que nous abordions le chapitre 6 au verset 10 et suivant, à moins que nous le fassions en tant qu'équipe. Il s'agit du passage sur l'armure du chrétien, et cela mérite une attention toute particulière. Et plutôt que de commencer, puis de différer et d'y revenir ensuite, je préfère attendre jusqu'après Pâques, et m'y attaquer avec toute mon attention ensuite. Donc ce matin, j'ai l'intention d'utiliser Éphésiens 6, 10 à 12, nos prochains versets. Seulement comme tremplin pour quelques réflexions qui, je pense, sont essentielles à tous de nos jours. Environ une fois par an, je ressens le besoin d'aborder clairement les questions concernant le futur de Grace Community Church. Et ce passage, alors que je le lisais et priais pour que le Seigneur me guide sur ce que je partagerai avec vous cette semaine, donne en quelque sorte le ton pour moi. Et je lis dans Éphésiens 6 au verset 10, le prochain verset de notre étude. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous arrêterons là. Je lisais ça, et je me suis dit que c'est vraiment la bonne façon de mettre fin au livre d'Éphésiens. Parce que ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est « Si vous êtes un vrai chrétien tel que décrit dans les chapitres 1, 2 et 3, et si vous vivez de la façon dont un vrai chrétien le devrait, comme défini dans les chapitres 4, 5 et 6, alors vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que vous allez être précipité droit sur l'ennemi. Il est impossible de vivre à la manière qu'Éphésiens préconise, sans avoir de conflit avec Satan. C'est impossible. Et c'est pourquoi, après avoir dit tout cela, il ajoute « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La dernière chose que vous devez savoir, c'est que vous devez être fort. Vous devez vous revêtir de l'armure de Dieu, parce que vous êtes dans une guerre spirituelle. C'est une guerre. Je me souviens, la première fois que je suis arrivé à Grace Church, j'étais sur un petit nuage. Puis, quelques années plus tard, j'ai eu l'impression que ce n'était pas tout à fait si palpitant. C'était plus comme un travail. J'étais obligé de pondre tous ces sermons, de les prêcher les dimanches, de recommencer tous les lundis, et comme je n'avais pas de carnet de commandes, je prêchais tout ce qui me venait. Je me débattais pour être à la hauteur, et ça, c'est travailler. Il y a quelques années, je me suis réveillé, et j'ai réalisé que je ne suis pas sur un petit nuage, et que ce n'est pas du travail non plus. C'est la guerre. Nous sommes au cœur de la bataille. C'est une guerre, et c'est essentiellement ce que Paul nous dit ici. Nous sommes bien tels qu'Éphésiens 4, 1 nous le dit, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, si nous marchons dans l'humilité et l'unité, pas dans la vanité de notre esprit comme les païens, si nous nous attachons à être un homme nouveau, si nous marchons dans l'amour, pas dans la convoitise, si nous marchons dans la lumière, pas dans l'obscurité, si nous marchons dans la sagesse, pas la sottise, si nous ne sommes pas ivres de vin mais remplis de l'esprit, si nous ne chantons pas des chants du monde mais des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, et si plutôt que d'être fiers et individualistes, nous nous soumettons l'un à l'autre, et si nous nous soumettions à Dieu, tout comme les épouses devraient se soumettre à leurs maris, et si leurs maris aimaient leurs épouses comme le Christ a aimé l'Église, et si les enfants obéissaient à leurs parents, et que les parents nourrissaient et éduquaient leurs enfants aux choses de Dieu, et si les employés et les employeurs avaient de bonnes relations telles que décrites dans la Bible, et remplis de l'Esprit Saint. Alors, croyez-moi, nous contrerions le système, nous nous battrions à contre-courant. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre société. J'ai reçu un coup de téléphone de CBS cette semaine. Ils voulaient que je participe à un débat d'une heure avec une féministe de l'Organisation nationale des femmes. Nous devenons connus dans le monde entier, non seulement pour ce que nous croyons, mais aussi pour ce que les gens croient que nous croyons. J'ai reçu des coupures de presse presque tous les jours de quelqu'un dans le pays qui a sorti un article déformé sur notre Église, sur ce que nous prévoyons ou ce que nous essayons de dire à un degré ou à un autre. Il était très préoccupé de savoir si j'étais devenu fou. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons commencé à prendre position contre certaines choses dans le monde. Et nous l'avons toujours fait. C'est juste que notre nombre, notre impact et la grande bénédiction de Dieu ont fait de tout cela quelque chose que le monde ne peut plus ignorer. C'est ainsi que nous commençons à faire des vagues dans le monde. Et c'est passionnant, mais croyez-moi, quand Dieu commence à bénir une église, Satan commence à attaquer à cette même église. Si vous pensez que vous allez commencer à venir à Grace Church simplement pour que vous puissiez vous installer dans votre petit nid quelque part, là-bas dans le coin, et avoir votre petit confort, vous avez tort. Je pense que nous sommes sur le point d'être testés, certainement d'une façon dont nous n'avons jamais été testés auparavant. La Bible parle du croyant comme d'un soldat. Et je pense que c'est vrai. Paul dit à Timothée, « Comme les soldats endurent l'épreuve, et cela signifie souffrir avec. » Et j'ai vraiment l'impression que, parce que Dieu nous a bénis, il exige beaucoup de nous. Vous savez, le monde observe cette Église. C'est incroyable pour moi. Je reçois du courrier tous les jours de pays étrangers, de pasteurs de tous les pays inimaginables au monde. Je reçois régulièrement des lettres de pasteurs d'endroits reculés de l'Inde, ou d'autres endroits comme en Orient, en Europe et en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, de la plupart des pays d'Afrique, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et ça continue. Ils me demandent, « Dites-nous ce que vous faites dans votre Église. Comment et pourquoi Dieu vous bénit-il ? » Et puis, je vois non seulement les yeux des pasteurs et des églises du monde, mais les yeux des médias, des gens qui nous regardent. Le monde déchu nous regarde, et Dieu fait une chose merveilleuse. Je lui fais confiance et prie pour que ce soit à sa gloire. Mais chaque fois que cela commence à se produire, nous devons être attentifs. Je pense à l'apôtre Paul, en cette même ville d'Éphèse. Il est allé à Éphèse, et des choses incroyables se sont produites. Il est allé dans cette ville et il a commencé à prêcher la parole de Dieu dans la synagogue. Quelques-uns restaient endurcis, nous dit Acte 19. Mais certains ont cru, et ceux qui croient l'ont écouté. Et il les a enseignés, mais finalement les autres étaient si antagonistes qu'ils l'ont jeté hors de la synagogue. Et il s'est installé à l'école de Tyrannus, où pendant 2 ans, il enseignait tous les jours, probablement de 13h à 17h, durant 2 années pleines. Et il est dit que de grandes choses se sont produites. Des miracles ont été faits par les mains de l'apôtre Paul. Les gens qui étaient impliqués dans les cultes magiques incroyables ont commencé à brûler leurs livres de magie. Il y eut une émeute. Les gens qui vendaient les petits dieux en argent, qui faisaient partie du quotidien, se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus le faire. Les gens rejetaient leurs idoles. Ils les brisaient. Et la ville n'était plus qu'un incroyable tumulte. Il est dit dans Acte 19, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Cette grande église d'Éphèse, fondée par Paul, plus tard guidée par Aquila et Priscilla, et enfin par Timothée et Apollos, connaissait le meilleur des hommes et la meilleure des situations, et sa plus grande histoire. Et pourtant, quand ils ont vraiment commencé à agir, Satan a attaqué de façon très subtile, parce que c'est toujours sa façon de faire. Vous savez ce que je crois en Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église. Je crois qu'il veut de la gloire dans son Église, lui permettant de faire des choses au-delà même de ce que nous pouvons rêver, à travers son pouvoir. Je pense que Dieu veut aller bien au-delà de ce qui se passe maintenant. Je pense que nous commençons juste à voir ce que Dieu peut faire quand un groupe de personnes s'engage totalement dans une voie juste. Quand un groupe de personnes s'engage totalement à vivre le genre de vie qu'Éphésiens 4, 5 et 6 les appellent à vivre. Mais dès que cette marche commence, Satan s'y opposera. Nous le voyons tout autour de nous. Revenons dans l'Ancien Testament, par exemple. Et vous voyez Dieu envoyer un ange dans Daniel, chapitre 10. Et un démon retient cet ange, afin qu'il ne puisse pas accomplir le dessein divin. Et Dieu doit envoyer un ange plus prestigieux, un ange plus puissant pour détruire ce démon, et permettre à cet ange de passer. Vous trouverez dans Jude 9 l'archange Michel se battant avec Satan pour le corps de Moïse, Satan essayant d'empêcher l'archange de réclamer le corps de Moïse pour Dieu. Il y a donc une lutte spirituelle de haut niveau dans laquelle nous sommes nous-mêmes impliqués. Éphésiens 6, verset 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes donc engagés dans cet énorme conflit. Et c'est pourquoi je dis que c'est la guerre. Je pense que le christianisme américain est devenu présomptueux et très satisfait de lui-même, et presque une sous-culture. Et plutôt que de le confronter, nous valsons avec le système, en essayant de l'adapter. Nous croyons que nous pouvons le convaincre, en devenant ce qu'il est. Mais en vérité, c'est tout le contraire. Nous devons contrecarrer le système, et donc nous devons être conscients du fait que Satan va attaquer. Vous savez que Jacques, dans le chapitre 4, dit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9, Pierre dit « Soyez sobres, soyez vigilants. Pourquoi ? Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » En d'autres termes, Satan est là. Résistez-lui, soyez sobres, soyez vigilants, soyez attentifs, restez en alerte et sachez ce qu'il fait. 2 Corinthiens 2, verset 11 dit de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Dans Actes, chapitre 20, Paul parlait aux anciens dans l'église d'Éphèse, et il leur dit ceci, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes, qui enseigneront des choses pernicieuses. » Ce qu'il dit, c'est, « Je le sais, comme je connais son nom, je sais, comme je suis sûr que le soleil se lèvera demain, que dès que je partirai, vous l'affronterez de l'extérieur comme de l'intérieur, sous forme de loups venant de l'extérieur et de faux prophètes venant de l'intérieur. Veillez donc. » Acte 20, verset 31. Vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous, dit-il. Une partie du ministère consiste à mettre en garde. Quand Dieu nous a bénis comme il l'a fait, quand Dieu a multiplié son auditoire comme il l'a fait, et que Dieu nous utilise pour tracer un chemin dans ce monde mauvais. Alors, croyez-moi, Satan va venir après nous, et nous devons être prêts, et nous devons revêtir notre armure. Mais avant toute chose, nous devons prévoir son attaque. Nous devons comprendre son stratagème. Nous ne voulons pas être pris par surprise par ses artifices. Comment Satan nous attaque-t-il? Eh bien, pour répondre à cela, je veux que vous tourniez vers Apocalypse, au chapitre 1. Vous savez qu'il m'est arrivé une chose particulière une fois. Je suis entré dans une pièce. J'ai été appelé là où une jeune fille était remplie de démons. Et les démons avaient tous des voix différentes. Ils utilisaient sa bouche pour parler tour à tour. Mais les voix n'étaient pas les siennes. C'était impressionnant. Parce qu'une chose terrible se passait dans cette pièce. Et cette jeune fille avait renversé un bureau. Et coupé et brisé tout ce qui se trouvait autour. Et quand j'ai franchi la porte, elle a tout à coup frappé la chaise. Et elle m'a juste fixé d'un regard frénétique, avec une voix qui n'était pas la sienne. Je connaissais sa propre voix. La voix a dit « Dehors, pas lui, sortez-le ». Ma réaction à cela a été l'excitation, parce que j'étais heureux que ces démons sachent de quel côté j'étais. Ils le savent, croyez-moi. Ils me connaissent, et ils connaissent cette église, et ils savent ce que Dieu fait ici, et ils essaieront de l'arrêter, et la façon dont ils vont l'arrêter ou d'essayer de l'arrêter. C'est à travers vous. Parce qu'une église n'est qu'une succession de liens, telle une chaîne, et pas plus forte que son maillon le plus faible. Satan va attaquer. Comment nous attaque-t-il? Je crois que le Seigneur nous le montre dans le livre de l'Apocalypse 2 et 3. Je crois aux lettres écrites aux églises, aux 7 églises, d'Asie mineure, dont la première est Éphèse, puis aux autres qui sont littéralement nés de l'église d'Éphèse, les 6 autres étant également en Asie mineure. Je crois que le Seigneur nous donne un aperçu de la façon dont Satan attaque l'Église. Et au moins une fois par an environ, je me sens obligé de prévenir notre Église à cet égard. Maintenant, plantons le décor en ouvrant l'Apocalypse, chapitre 1 et verset 9. Jean, l'apôtre bien-aimé, est sur l'île de Patmos. Il était en exil à cause de sa foi, et c'est ici que Dieu lui donne des visions merveilleuses. Dans ces visions, il voit ce que Dieu veut révéler au sujet de l'Église. Maintenant, vous remarquerez dans le verset 10 que Jean a dit « Je fus ravi en esprit ». Et par cela, je pense qu'il veut dire qu'il est en position de recevoir la révélation de l'Esprit sur le jour du Seigneur. Cela devait être un dimanche. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, en Asie mineure, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Notez que le Seigneur a un nom pour chacune de ces églises. Ce qui est plus intéressant, c'est que ce sont sept authentiques églises historiques, réelles, mais qu'elles sont aussi des prototypes d'églises qui ont existé au cours de toutes les périodes de l'histoire de l'Église, parce que chacune d'elles a une caractéristique unique, à travers laquelle le Seigneur s'exprime. Et il y a des églises dans chaque ère, y compris aujourd'hui, qui pourraient être classées comme des églises éphésiennes ou smyrnéennes, ou des églises de Pergame, ou de Thyatire, ou de Sardes, ou des églises de Philadelphie ou de Laodicée. Ce ne sont pas seulement des églises historiques, mais elles représentent pour nous un prototype sur lequel d'autres périodes de l'histoire s'appuient. Imaginez maintenant la scène, au verset 12. « Je me retournai, et je vis sept chandeliers d'or. » Quels sont ces sept chandeliers d'or? Le verset 20 nous dit à la fin que les sept chandeliers sont les sept églises. Voilà donc la vision de Jean. Il voit chaque chandelier symbolisant chacune des églises, et ils sont en flamme, ils sont allumés, et l'église doit être une lumière dans le monde, n'est-ce pas? C'est l'endroit qui illumine l'obscurité. Et les voilà, les sept églises d'Asie mineure, chacune représentée par un chandelier. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est Jésus-Christ. Et il se déplace dans son église. Il se déplace à travers l'église. Et il est revêtu d'un vêtement jusqu'aux pieds. En passant, des vêtements comme ça ont été portés par les prêtres, les prophètes et les rois. Et c'est donc la consécration de tous ces éléments en Christ. Il était saint à la poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Cela évoque sa sainteté et sa pureté. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sondant et pénétrant. Alors, voici le Seigneur, et nous le voyons dans son vêtement royal, sacerdotal et prophétique, et nous le voyons avec du blanc qui symbolise la pureté. Puis ses yeux cherchent, sondent, alors qu'il évalue l'Église. Et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Pourquoi? Parce qu'il doit parfois juger son Église. Pierre l'a dit lui-même, le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et nous voyons aussi que sa voix était comme le bruit de grandes eaux, une voix puissante, impérieuse, autoritaire. Il avait dans sa main droite sept étoiles. Que sont-elles? Le verset 20 nous le dit. Les sept étoiles sont les anges, ou les ministres, des sept églises. Et ainsi dans sa main sont les ministres, et il se déplace parmi les églises, évaluant, cherchant, sondant, examinant les églises, prêt à écrire les sept lettres. Il observe les églises dans le chapitre 1. Il rend ses conclusions au chapitre 2 et 3. Et donc, il commence par l'intermédiaire de Jean à rédiger les lettres au chapitre 2. Et que dit le Seigneur à ses églises? Eh bien, bien-aimés, laissez-moi vous dire que ce sont sept lettres absolument incroyables. Cinq d'entre elles, notez bien, sont des avertissements. Pour deux de ces églises, il n'y a aucun avertissement. Pour les églises de Smyrne et de Philadelphie, apparemment, il n'y avait pas besoin d'avertissement. L'église de Smyrne était l'église persécutée. L'église de Philadelphie était l'église évangélisatrice, énergique, d'esprit combatif. Il me semble que ces deux éléments sont de merveilleuses voies de pérennisation. Quand une église est persécutée, elle tend à maintenir sa pureté parce que toute l'impureté tombe. Vous ne portez donc aucun signe distinctif si vous n'êtes pas résolu à être persécuté. Pas vrai? Donc, la persécution est une façon de purifier l'Église, tout comme l'évangélisation. Parce que tant que votre cœur est tourné vers le monde, et tant que vous tendez énergiquement à atteindre les perdus, vous avez tendance à sortir plutôt que d'être planqué. Et l'Église de Philadelphie, l'Église à la porte ouverte, était une Église bénie. Et l'Église de Smyrne, l'Église qui a été incendiée par l'opposition, était une Église bénie. mais les cinq autres ont eu besoin de réels avertissements. Et il y a une progression dans les cinq avertissements. Cela commence avec ce qui semble être un avertissement très, très léger. Et ils sont si vexés qu'ils deviennent finalement apostats. Et une église qui n'est plus du tout une église. C'est une dégringolade que nous avons vue arriver dans de nombreuses églises tout au long de l'histoire. Quand je regarde Grace Church et que je lis ces cinq avertissements comme je l'ai fait cette semaine, je suis très conscient que la même chose qui est arrivée à des milliers et des milliers et des milliers d'églises dans le monde pourrait nous arriver. Vous commencez si bien. Vous commencez comme l'église d'Éphèse l'a fait. Et le découragement vient. Et bientôt, il ne vous reste plus rien. J'ai prêché dans des auditoriums de ce pays, contenant jusqu'à 4000 places assises. Et un dimanche matin, il n'y avait plus que 150 fidèles rassemblés devant. Et c'est tout. Je l'ai vécu. J'ai vu Dieu écrire Ichabod sur beaucoup de choses et beaucoup d'églises. Mais je ne veux pas que cela arrive ici. Nous projetons d'installer un balcon ici. Nous venons d'ajouter environ 200 sièges dans le fond parce que la ville nous a donné la permission. Puis nous parlons d'un balcon et d'un bâtiment d'éducation et de toutes ces choses. Et je suis enthousiaste à ce sujet. Mais uniquement si je sais que lorsque ce balcon sera là, il sera occupé par des gens qui entendront la parole de Dieu. Et ce bâtiment va être occupé par des enfants et des jeunes, et des adultes qui vont aimer le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, âme, esprit et force. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Et je veux faire ce que je peux pour vous avertir, parce que je crois que Satan voudrait transformer ce lieu en une grande carrière de pierre à ciel ouvert, avec plus rien d'autre qu'un tas de cailloux à la place. Alors, de quoi devons-nous nous méfier? Voyons voir. Premièrement, la chose qui a frappé l'église d'Éphèse. Ils ont oublié leur amour premier. Ils ont oublié leur amour premier. C'est suffisant comme raison à elle seule. Remarquez le verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. C'est le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ, qui a écrit à sa propre église. Ce n'est pas l'opinion de n'importe qui, c'est celle du Christ. Et il dit au verset 2, « Je connais tes œuvres. » C'était une histoire fabuleuse à Éphèse. C'était une histoire incroyable. La façon dont ils avaient littéralement jeté une ville dans la confusion et le chaos. Ils avaient renversé un système religieux. Ce petit groupe de croyants, installé au cœur de la ville, comme s'ils étaient une île de pureté dans une mer de misère, a été capable d'infiltrer et de purifier les parties de cette ville. Ils ont mis un terme à certains des systèmes de religion les plus complexes de cette époque. Ce petit groupe de personnes a débuté quelque chose d'incroyable. Et qui aurait pu penser à un meilleur initiateur de cela que Paul? Et qui aurait pu être plus merveilleux pasteur qu'Apollos, le plus grand proclamateur de la parole de Dieu, et habile orateur qui ait, peut-être jamais vécu, meilleur que Timothée qui était celui qui leur enseignait les mêmes choses, à la façon de Paul? Ils avaient ces gens pour leaders, et ils étaient une église active. Il est dit, « Je connais votre copos, votre labeur acharné jusqu'à la sueur. Vous ne vous ménagez pas, vous vous impliquez dans votre travail avec patience. Vous avez de l'upomone, vous êtes capable d'endurance dans les moments difficiles. Et c'est sûr, Éphèse n'était pas un endroit facile. C'était le centre du culte de Diane, l'une des sept merveilles du monde. Son temple était une débauche incroyable. Il y avait des dizaines d'eunuques, des milliers de prêtresses prostituées, des héros chantants, des flûtistes et ainsi de suite, créant une hystérie de musique, d'orgie et d'ivrognerie, de frénésie et de mutilations sexuelles, si bien qu'Héraclite disait que la morale du peuple de ce temple était plus pauvre que celle des animaux. La prédication de Paul a tellement affecté tout cela que les ventes d'idoles ont chuté et que cela a abouti à une émeute. Ils étaient une église formidable. Ils avaient de l'endurance au milieu d'un endroit difficile, vraiment difficile. Et il dit non seulement cela, mais aussi, vous ne pouvez pas supporter ceux qui sont mauvais. Vous ne pouvez pas gérer ceux qui sont mauvais, dit-il. Vous avez affaire au péché. Vous ne devez pas tolérer le péché une seule seconde. Quand quelqu'un vient et fait du mal, vous devez faire face à cela. Vous devez être intolérant envers les pécheurs. Remarquez le verset 6. Il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Et les Nicolaïtes apparemment descendaient d'un individu appelé Nicolas, qui était un homme qui adopta l'immoralité sexuelle. Quelqu'un a dit de Nicolas qu'il s'est abandonné au plaisir, comme une chèvre. Quoi qu'il en soit, et nous n'en sommes pas vraiment sûrs, le terme semble venir de là. Nous savons que cela évoque un comportement licencieux, lascif, immoral, malin et fornicateur. Et il dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. » Le verset 2 continue, « Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. » En d'autres termes, vous vous confrontez aux faux docteurs. Vous avez votre connaissance biblique, vous avez votre profession de foi, vous avez votre théologie, et vous évaluez les hommes avec tout ça. Vous êtes doctrinalement solide, vous vous confrontez au péché, vous travaillez dur. Les gars, cela ressemble à une super église. Et il est dit au verset 3, je me répète, « Tu ne t'es point lassé, tu as enduré ces choses autrefois, et tu t'en es sorti sain et sauf. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom. » Écoutez, c'est la plus grande raison pour qu'un chrétien agisse. Tu as souffert à cause de mon nom. La gloire de Dieu était leur motif, le motif suprême de tout l'univers. Vous aviez même le bon motif. Ils servaient sa gloire, son nom, et ils avaient travaillé, et ils n'avaient pas défailli. Eh bien, quelle grande église, doctrinalement solide, occupée à démasquer les faux prophètes, à discipliner ceux qui pêchent. Ils s'y sont vraiment mis tous. Mais ils avaient un défaut fatal. Si vous revenez au verset 14 du chapitre 1, vous voyez que les yeux de Christ sont comme une flamme de feu. Ils cherchent et ils sondent. Et les yeux pénétrants de Jésus-Christ ont trouvé un défaut fatal au verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est l'Église où l'amour a disparu. C'est l'orthodoxie, l'activité sans l'amour. Quand ils ont lu cela, cela dut être comme avoir été frappé par la foudre. Parce que personne ne pensait aimer Dieu autant que les orthodoxes le faisaient, de manière fondamentale, de manière évangélique. Pourtant, leur définition de l'amour n'était pas celle de Dieu. Ils ont manqué la seule chose fondamentale que Jésus a dit à Pierre trois fois. « Pierre, avant que je te demande de paître mes brebis, je dois te demander quelque chose. Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? Si tu dis oui, alors paie mes brebis. » Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas être utile au plan de Dieu autrement qu'en aimant le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force et de toute votre pensée. Et vous savez, messieurs, dames, je peux avoir ce problème potentiel à Grace Church. Nous sommes tellement pris, nous sommes tellement impliqués dans tellement de choses qu'il devient très facile pour nous d'oublier la personne de Jésus-Christ. Nous perdons l'amour et tout d'un coup nous sommes satisfaits de nos œuvres. Il ne faut pas. C'est l'une des plus grandes églises de toute l'histoire, et pourtant les yeux pénétrants du Seigneur y ont trouvé ce défaut fatal. Ils avaient tourné leur cœur chaleureux vers une froide orthodoxie. Ils devinrent ceux qui accomplissaient simplement un ministère biblique. Il n'y avait là aucune passion. Je vous en avertis, et je mets en garde mon propre cœur, des anciens et le personnel pastoral, jusqu'aux personnes qui nous visitent. Si nous finissons par arriver au point où tout ce que nous faisons n'est plus qu'une performance orthodoxe sans amour, ce sera le premier pas vers la chute, le premier pas vers Satan. Et vous ne voulez même pas savoir ce que le reste des étapes est, mais vous allez le découvrir. Lorsque vient le moment où la lune de miel s'achève et que vous ne faites pas ce que vous faites à cause de votre amour écrasant pour Jésus-Christ, vous êtes vraiment dans la panade. Regardez votre propre vie. L'enthousiasme pour le Christ est-il là, ou l'émotion a-t-elle disparu? Est-ce une description juste de votre vie chrétienne de dire « Eh bien, je l'ai plus ou moins, je n'ai pas le même amour que j'avais au début. Si vous aimez quelque chose dans ce monde plus que vous n'aimez Jésus-Christ, vous avez perdu votre premier amour, vous-même, votre famille, vos loisirs, votre argent, votre succès, quoi que ce soit, vous l'avez perdu. Si la lune de miel est terminée dans votre vie, comme c'était le cas à Éphèse, nous sommes vraiment dans la panade, dans la panade. Si vous servez le Seigneur Jésus-Christ dans cette église, comme le ferait un orthodoxe, plutôt que d'un amour passionné pour lui, alors vous avez tout faux. Vous avez tout faux, tous autant que vous êtes. Vous me direz, eh bien, que faire si je me sens comme ça? Le verset 5 nous dit trois choses. Rappelez-vous. Rappelez-vous, c'est incroyable. La défection spirituelle vient habituellement de l'oubli. La défection spirituelle provient habituellement de l'oubli. Et il dit, « Souviens-toi, Avez-vous oublié comment c'était? Rappelez-vous comment c'était avant que votre amour ne refroidisse. Rappelez-vous cette chaleur, ce feu et cette joie, cette exaltation. Rappelez-vous. Deuxièmement, repentez-vous. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. C'est une faute, vous savez, de pas aimer le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, et de toute votre force et votre prochain comme vous-même. Ne pas avoir ce premier amour pour lui et pour les autres. Ne pas avoir ce premier amour est une faute dont vous devez vous repentir. Écoutez, si la première réaction que vous avez face à un croyant est autre chose que de l'amour, vous avez perdu votre premier amour. Si la première réaction que vous avez face à Jésus-Christ est quoi que ce soit de moins que de l'amour ardent, vous avez perdu votre premier amour et vous avez besoin de vous repentir. Et puis, il dit une troisième chose. Rappelez-vous, repentez-vous, je me répète, et pratique tes premières œuvres. Revenez à ce que c'était. Si vous pratiquez froidement, mécaniquement le service, comme dans l'orthodoxie, revenez là où tout a commencé. Remettez-vous à genoux, relisez la Bible, redevenez témoin, revenez à la fraternité, revenez à la prière, recommencez à partager et à louer le Seigneur. Restez près du feu, c'est ce qu'il dit. Vous savez ce qui s'est passé à Éphèse. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne se souvenaient pas, et ils ne se repentaient pas, et ils ne revenaient pas en arrière. Et donc, ce qui est dit au verset 5 est arrivé. Je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. L'église d'Éphèse est morte. Elle a disparu. La grande, l'évangélique, l'orthodoxe, l'historique, la monumentale église a disparu, parce qu'elle a perdu son premier amour. Il y a une autre chose dont il faut se méfier. Au verset 12 du chapitre 2, j'ai sauté ce qui concerne l'église à Smyrne, parce qu'il s'agit de l'église persécutée, et qu'elle n'est pas en cause. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, c'est le Seigneur. Et l'épée est une épée de jugement sortant de sa bouche, comme dans Apocalypse 19, ou Hébreux chapitre 4, il dit, je connais tes œuvres. Et au verset 13, « Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Arrêtons-nous sur ce point. Il dit Pergame, « Je sais tout de toi. Ma connaissance, mon regard pénétrant, révèle toutes ces choses. Je connais tes œuvres. Je sais que tu t'impliques. Je sais que tu es actif. » Je sais qu'il se passe quelque chose, et je sais que tu es là, où se trouve le trône de Satan. Tu es dans un endroit difficile. Pergame était une ville difficile. Savez-vous que Pergame était le centre du culte de l'empereur, le centre du culte de César? Savez-vous que c'était le centre du culte de Zeus, le grand dieu? Certains disent le plus grand dieu de tout ce système de divinité, et que dans la ville de Pergame, ils avaient construit un énorme autel à Zeus, en forme de trône, et certains estiment que le trône de Satan, mentionné au verset 13, est une référence à l'autel de Zeus, le plus grand, le plus célèbre, le plus grand autel du monde. D'autre part, Pergame avait son propre dieu, du nom d'Asclépios. C'était le dieu de Pergame associé à la guérison, le dieu de la guérison. Il a toujours été associé à des serpents, et à Pergame, ils avaient un temple et une école de médecine. Vous voyez encore un serpent sur le symbole des médecins, et cela vient vraiment de la mythologie grecque, de cet Asclépios, le dieu de la guérison. Et dans le temple, ils avaient des serpents non venimeux partout sur le sol, et les gens qui étaient malades venaient se coucher là, pour que ces serpents puissent ramper sur eux, et que partout où ils les touchaient, ils soient guéris. Vous savez, c'était vraiment difficile de vivre à Pergame, c'était dur d'être un petit groupe de chrétiens, au milieu d'une terrible société païenne. Et donc, il est dit, « Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Eh bien, vous savez que c'est difficile, mais laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis. Vivre dans une ville difficile, être dans un environnement difficile, vivre à une époque difficile de l'histoire et employer le nom de Jésus-Christ. Il n'y avait aucune raison de se relâcher, même à ce moment-là. Cela ne les a pas changés. ils sont restés les mêmes malgré tout. Dieu dit, « Je sais que c'est difficile là-bas, mais ce n'est pas une raison pour se relâcher. Je sais que c'est dur, mais ça ne change rien, même après ce que vous avez enduré, et même si vous avez été martyrisé, et même si vous avez travaillé pour le Seigneur, même si vous avez témoigné de mon nom. » Verset 14, « J'ai quelque chose contre toi. Et qu'est-ce que c'est ? C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Permettez-moi de vous dire de quoi il s'agit. Balaam a amené les enfants d'Israël à se marier avec les païens, et à entrer dans leur idolâtrie. Et ce qu'il dit ici, c'est que c'est se compromettre avec les pratiques païennes. Et le problème dans l'église de Pergame était qu'ils se compromettaient avec ceux du monde. Ils se mariaient entre eux. Je ne sais pas si cela se passait réellement, s'il y avait effectivement des chrétiens qui se mariaient avec des non-chrétiens. C'est très probable que cela se soit produit. Mais l'église de Pergame commença à courtiser le monde extérieur. Ils commencèrent à céder aux choses du monde. Ils transgressaient 2 Corinthiens 6. Quelle communion à la lumière avec les ténèbres ! Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part le fidèle avec l'infidèle ? Ils devaient sortir du milieu d'eux et se séparer, ne pas toucher à ce qui est impur. Mais ils étaient l'église du monde. Ils avaient laissé entrer le monde. Ils faisaient ce que le monde voulait qu'ils fassent. Ils appartenaient au monde. C'est incroyable pour moi. Et je vous le dis depuis des mois, je trouve ça incroyable la façon dont l'église du Christ en Amérique s'ouvre au monde aujourd'hui, totalement, et qui s'évertue à singer le monde. Ils le font de tant de façons. Si la vision du monde de la famille change, l'Église s'en accommode. Si la vision du monde de la femme change, l'Église l'accueille. Si la vision du monde sur les homosexuels change, l'Église s'en accommode. Et nous prenons le train du monde en accord avec lui. Nous voulons nous y conformer. C'est choquant, juste choquant. L'Église devient matérialiste parce que le monde est matérialiste. L'Église devient préoccupée par le divertissement parce que le monde est préoccupé par le divertissement. Et juste pour vous donner un exemple de ça, voilà quelque chose que je lisais cette semaine. Savez-vous qu'au cours des 10 dernières années, bien qu'il y ait une augmentation constante du nombre de personnes nées de nouveau, il y a un déclin constant correspondant à ce nombre parmi les membres de l'Église, parce que ces gens ne vont pas à l'Église. Et cet article que j'ai lu cette semaine, un article très perspicace, dit que c'est la montée de tout ce qui est connu comme l'Église électronique. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est la raison numéro 1 pour laquelle les gens n'intègrent plus une église locale. Ils sont assis à la maison derrière leur petite télévision et l'église vient à eux. Ils n'ont pas à s'habiller, ils n'ont pas à quitter la maison, tout est parfait. Ajoutez à cela, notez bien, de la fantaisie. Vous savez, la télévision est une fantaisie et notre monde veut vivre cette fantaisie. Et vous rentrez à la maison et vous vous asseyez là. Et ça, c'est une église parfaite. Je veux dire, la musique est incroyable, incroyable. Des orchestres et des gens avec des robes fluides, et de grands chanteurs, et le défilé continu, et les lumières, et les angles de caméra, et tout cela. Et le prédicateur est parfaitement habillé, il donne son message, et la voilà, l'église de fantaisie. Et vous ne vous asseyez jamais à côté de quelqu'un que vous n'aimez pas, et personne ne parle jamais pour vous déranger, et vous n'avez pas à trouver un endroit pour vous garer. C'est magnifique. Et vous envoyez juste un peu d'argent par acquis de conscience de temps en temps. Et ils vous diront que vous serez béni pour ça. Et ils vous enverront un truc que vous pourrez punaiser sur votre mur pour prouver combien vous êtes généreux. Vraiment, c'est pitoyable. Et vous savez ce qui se passe. Un écrivain dit que l'église électronique est construite sur le divertissement. Et l'église électronique singe ces mêmes choses du monde que l'église a toujours condamnées. L'église électronique apparaît inévitablement comme une manifestation de culture religieuse, mêlant valeurs et paillettes et la déformation de vraies valeurs, et le type de succès que nous exhortons, nous, chrétiens, à rejeter. Les gens ne veulent pas sortir, et les seules églises qui peuvent rivaliser avec elles sont les grandes églises, comme la nôtre. Une petite église ne peut vraiment rien. Martin Marty, qui se débrouille avec les mots, croyez-moi, décrit ce phénomène d'église électronique de cette façon. Tard le samedi soir, monsieur et madame religion invisible prennent un malin plaisir à regarder un homme à la chemise à volant et au smoking rose, et une femme célèbre, à la coiffure chic, portant un décolleté, parlaient d'eux-mêmes sous prétexte d'évoquer leur vie de nouveau convertis. Dimanche matin, les spectateurs se réjouissent. Lorsque les animateurs du Saint-Esprit caressent leur microphone parmi des fontaines jaillissantes, comme un leader hautement professionnel et charismatique sait le faire, est-ce qu'ils doivent éteindre la télé ou l'ordinateur, ne plus fréquenter ce groupe, et se tourner ensuite vers une congrégation de véritables croyants, de pécheurs, de cœurs qui chantent faux, de gens en sueur ailés, de personnes qu'ils n'aiment pas vraiment, mais qu'ils sont censés aimer, tels des pasteurs ordinaires qui prêchent la grâce et forment des disciples, des plaidoyers d'intendance qui ne sont pas bien huilés, jamais, ou plutôt presque jamais, puisque l'Église électronique, vous me rappelez, prêche quand même le Christ, et donc peut faire quelque bien. Espérons-le, que ses membres paient pour ça, mais laisser l'Église s'accrocher à ce qui se passe et suivre son propre chemin, sans être perturbée par les offres de grâce bon marché ou le langage de la croix, sans porter la croix. Assez direct, nous vivons dans le monde réel, messieurs, dames. Le monde réel se trouve dans une véritable Église. L'Église est si satisfaite et si confortable dans son compromis avec le monde qu'elle tombe dans la fantaisie. Puis dans le verset 15, il dit « De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Que s'est-il passé à Pergame ?» Pergame a décidé qu'il pourrait valser avec le monde. Pergame a décidé qu'il pourrait courtiser le monde, qu'il pourrait dessiner un peu le monde et faire un peu de ce que fait le monde à la manière dont il le fait et permettre une certaine immoralité au verset 15 et que tout irait bien. Un ancien m'a dit que deux anciens et leurs femmes s'étaient échangé leur épouse dans l'église où ils se trouvaient avant. Dans l'église, ils ont pensé qu'ils ne devraient rien faire à ce sujet, que cela pouvait perturber la congrégation. L'Église tolère le péché et quelques espèces de compromis. Oh, le message est toujours le même. Nous prêchons le Christ. Et pourtant, le compromis commence à ronger, tel des termites, ses fondations. Et donc, au verset 16, il dit « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Écoutez, vous savez comment Satan attaque une Église? Tout d'abord, il est très subtil. Nous perdons notre premier amour. Et puis, tout d'un coup, nous commençons à faire des compromis avec le monde, parce que la chose la plus facile pour vous conduire à un compromis est un manque d'amour pour Dieu. Si vous aimez vraiment Dieu et que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et de toute votre force, votre plus grand désir sera de maintenir son honneur absolu, pas vrai? Et pour ce faire, vous ne pouvez pas faire de compromis avec le système. Mais dès que votre amour s'estompe, alors il devient plus facile de tomber dans le piège du système. Soit dit en passant, vous allez aimer quelque chose, et si ce n'est pas Dieu, vous finirez par aimer ce qui vous entoure. Il y a une troisième église que je veux vous mentionner, l'église de Thyatire, au verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Il cherche, sonde, et vient en jugement. Et cela semble intéressant. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Vous êtes devenu meilleur avec ce genre de choses. Nous avons ici une église qui fonctionne vraiment. Les chrétiens sont actifs. Ils ne s'arrêtent vraiment pas. Si l'église de Pergame a épousé le monde, l'église de Thyatire célèbre ses anniversaires. C'est l'église qui tolère le péché. Éphèse a perdu son premier amour. Pergame s'est compromise avec le monde. Thyatire tolère le péché. Le barrage a été ouvert et le péché est là. Le verset 20 dit « En dépit de toutes vos œuvres, de tout votre amour, de tout votre service, de toute votre foi et de votre patience, et de toutes ces choses, et du fait qu'elles augmentent même, ce que j'ai contre toi. » Ce n'est pas dans les manuscrits grecs, en fait, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous savez ce que cette église a fait? Ils ont fait toutes ces bonnes choses, l'amour, le service et la foi, mais ils ont laissé l'église devenir la victime d'un faux prophète. Ils ont simplement permis que le péché vienne, qu'il ait son apogée. Il y avait des gens qui pratiquaient la fornication. Cela rappelle l'église corinthienne, n'est-ce pas? Cela dit, elle a disparu aussi. Mais voici cette femme, et elle a été les séduire et les impliquer dans le culte des idoles de l'époque. Et je vous l'ai déjà dit, mais l'idolâtrie de ces périodes de l'histoire impliquait l'activité sexuelle, et donc ces personnes prenaient du bon temps, plongeant dans la saleté et la pourriture du monde. Vous savez, messieurs, dames, il se passe plus de choses à Grace Church que je ne l'aurais jamais cru par le passé. Mais nous ne le tolérerons pas plus que par le passé. C'est un fait rare de rencontrer un couple dans le cadre d'un entretien prémarital. À qui vous demandez « Avez-vous couché ensemble ?» et dont la réponse est non. Cela devient une chose rare. Est-ce que ça vous choque ? C'est devenu une chose rare. C'est un monde très vil dans lequel nous vivons. Les gens sont attirés par le péché s'ils ne sont pas conscients de ce qui se passe, qu'ils ne construisent pas leur défense, qu'ils ne marchent pas avec l'esprit. Mais je vais vous le dire, nous ne le tolérerons pas maintenant, tout comme nous ne l'avons jamais toléré. Nous sommes bien plus entourés par des gens qui pratiquent le mal plutôt que la vertu. Mais nous sommes plus tolérants pour celui-ci que nous ne l'avons jamais été. Mais cette Église a commencé à l'admettre, et Dieu a même été patient. Verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Dieu a même donné un peu de temps pour le repentir, et qu'elle ne veut pas se repentir. Il dit alors, « Je vais la jeter sur un lit. Elle aime tellement les lits que je vais la mettre dans un lit. Elle veut commettre la fornication. Je la mettrai dans une situation de fornication. » Et le verset 23 dit que ce sera un lit de mort. « Je ferai mourir de mort ses enfants. C'est ce que je ferai. Qui qu'il soit ce peuple qui a écouté Jézabel et désigné comme son enfant. » Et il dit, « Je ferai mourir de mort ses enfants. Ce sera un lit de mort. Je vais les mettre au lit de mort. » Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Vous savez, le Seigneur jugera cette église, mes bien-aimés. Ne pensez même pas que vous pouvez être un croyant et vous préserver du châtiment de Dieu. Pas du tout. Le lit du vice sera échangé contre un lit de mort, parce qu'ils ont commis l'adultère. Ils ont commis l'adultère, dit le verset 22. Pourquoi ? Parce que le croyant est marié au Christ. Et le tromper avec les idoles et l'activité sexuelle est une forme d'adultère. Croyez-moi, il dit à l'Église qui tolère le péché, « Mieux vaut se repentir, il vaut mieux se détourner. Et si vous ne vous repentez pas ?» La fin du verset 22 nous dit, « Je vous ferai mourir de mort. » Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas impliqués, au verset 24, il dit, « Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Mais à ceux qui sont mauvais, je vais porter un jugement. Voici l'Église qui tolère le péché. Bien-aimés, il y a tant d'Églises qui le font. Ils ne veulent tout simplement pas faire face au péché. Ils ne veulent tout simplement affronter personne. Ils disent, vous voulez dire que vous disciplinez les gens dans votre Église? Nous le faisons, parce que la Bible nous le demande. Oh, nous ne voulons pas entrer dans tout cela, parce que cela pourrait causer, vous voyez, tolérer le péché, pactiser avec le monde. Et c'est la conséquence logique. Vous commencez par une perte d'amour. Puis très vite, quand vous n'aimez plus le Seigneur, vous êtes prêt à faire des compromis. Vous vous compromettez un peu, et bientôt votre compromission devient une tolérance. Et le péché inonde l'Église. Et vous allez directement de ce genre de situation à Thyatire, dans le prochain chapitre. Verset 1. Vous êtes dans l'Église de Sardes. Et c'est une Église qui se contente de programmes. Tout d'un coup, la vie est partie. Une église qui tolère le péché devient une église dégénérée et morte. Et il dit, « Je connais tes œuvres. » Verset 1. « Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. » Une église morte, un cadavre. Savez-vous que Sardes était l'une des plus grandes villes du monde antique? En fait, son plus grand roi était nommé Crésus. Et quand nous voulons dire que quelqu'un est vraiment riche, nous disons qu'il est aussi riche que Crésus. Cette église, ou plutôt cette ville, était littéralement synonyme de richesse. Cette ville a disparu. Cette église a disparu. Elle a disparu parce que cette église était une église dégénérée, morte. Mettons un léger coup de pied dans la fourmilière. Le verset 2 nous dit, « Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Ils étaient soit morts, soit prêts de mourir. Tout ce qu'il leur restait, c'était l'apparence. Comme dans l'ancienne chanson de Marin, les cadavres du navire, les cadavres ramés, et les morts dirigeaient le navire. » Cela avançait, fonctionnait. C'est juste que tout le monde était mort. C'est alors que l'Église devient un centre d'activité, une succession d'événements ou des programmes. Vous avez vos classes et vous avez vos petits groupes. et vous avez vos activités pour les enfants et pour les jeunes, et pour les adultes, et tout le monde est très occupé, et vogue le navire, et les gens viennent. C'est juste qu'il n'y a pas de vie là-bas. Dieu n'est pas là. Il est écrit « Ichabod ». La gloire est partie, et la chaîne de conséquences est facile à voir. Vous perdez votre premier amour, une première perte, de cet amour ardent, passionné, et vous commencez à faire des compromis avec le monde. Vous faites des compromis avec le monde, et le péché abonde, et vous commencez à céder au péché, et à le tolérer. Et quand le péché inonde complètement l'Église, alors la vie spirituelle est étouffée, et tout ce que vous avez est une Église morte. Comme Samson, vous tournez en rond. Vous n'avez tout simplement plus de force. Vous êtes une victime. Et donc, il dit au verset 3, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Oh, il dit, « Cependant, tu as, Sardes, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi, en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Il y en avait encore quelques-uns. Cette église s'accroche à peine. Il ne reste que quelques mourants et quelques survivants. En partant d'Éphèse, une église formidable, qui a commencé par perdre son premier amour. Nous sommes maintenant au plus bas. Il en reste à peine quelques-uns. Et c'est comme ça. Peu d'entre eux s'accrochent. Ceux dont les vêtements sont blancs. Peu d'entre eux. Vous connaissez la prochaine étape. L'étape suivante dans la déchéance de l'Église vient lorsque Satan lance son coup final au verset 14 du chapitre 3, l'Église de la Laodicée. Notre Seigneur prévient l'Église qui a abandonné son premier amour, l'Église qui fait des compromis avec le monde, l'Église qui tolère le péché, l'Église qui se contente de ses apparences et de ses rites et de ses activités. Et enfin, il met en garde l'Église apostate, l'Église qui n'est pas du tout une Église, Laodicée, écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et ce que notre Seigneur veut dire ici, c'est « Le froid signifie l'indifférence à l'Évangile. Ils ne sont pas sauvés, pas intéressés, pas même juste concernés. Ils sont hypocrites. Ils n'ont pas de prétention du tout. Ils sont perdus, impassibles, indifférents. Je voudrais que vous soyez comme ça, ou que vous soyez chaud, c'est-à-dire croyant, sauvé, racheté. Mais vous n'êtes ni chaud ni froid, vous êtes tiède. Et c'est le pire de tout, c'est jouer le christianisme, c'est l'hypocrisie qui trouble le Christ. Et il dit, « Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Le froid. Il le prêche par ses messagers. Le chaud, il l'embrasse en son sein. Le tiède, il le vomit de sa bouche. Ce sont les hypocrites. Et c'est l'église hypocrite, la fausse église, l'église qui n'est pas une église. Et c'est le libéralisme d'aujourd'hui. C'est ce que nous avons dans le monde aujourd'hui, sous le couvert du christianisme. Il nie la Bible, ni la divinité de Jésus-Christ, ni tous les grands tenants de la foi chrétienne. Et disent néanmoins que ce sont des églises chrétiennes. C'est l'église des humanistes, et quand vous leur demandez « Parlez-moi de votre église », ce qu'ils disent n'est pas « Eh bien, la parole de Dieu y prévaut. Nous voyons des gens y être rachetés. Nous voyons Dieu toucher des vies. » Non, ils disent « Je suis riche, j'ai augmenté mes biens, et je n'ai besoin de rien. Regardez-nous, nous avons réussi, nous avons une grande organisation, et nous avons beaucoup d'argent. Il existe d'énormes églises dans le monde, de grandes dénominations. » Des systèmes religieux massifs qui relèvent de cette catégorie. Ils ont tout l'argent et tous les accessoires et tous les attributs, mais ils sont apostats et ils seront expulsés de la bouche du Seigneur. Il leur dit au verset 17 « Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu vois, que tu vois. » Alors il leur dit vraiment, « Je ne pense pas que ton jugement soit correct. Moi, Phileo, je reprends, et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. » Voyez-vous à présent de quoi notre Seigneur Jésus-Christ nous avertit. L'Église peut descendre dans la fosse de l'apostasie. L'Église d'Éphèse a disparu parce qu'elle a perdu son premier amour. Et une église cède si facilement au compromis avec le monde. Vous savez, parfois cela me dérange, que les gens ne viennent pas seulement pour étudier la parole de Dieu ou simplement pour prier. Vous devez amuser les gens. Vous savez, et je le ressens. Oh, vous savez, si nous avions juste une bonne grosse production, et tout le monde serait ici. Mais si nous disons que nous allons étudier la parole de Dieu, vous voyez, nous obtenons peu de fidèles. Et alors, ce que l'Église fait tant de fois, c'est qu'elle part de ce constat et qu'elle commence à amuser les fidèles et à singer le monde. Et ça, c'est de la compromission. Et puis, il y a l'Église qui a toléré le péché, l'Église qui a épousé le monde, l'Église qui était satisfaite de ses richesses matérielles et en réalité n'avait rien, l'Église morte. Toutes ces choses sont les attaques de Satan. Et bien aimé, il y a des églises préservées aussi. L'une d'entre elles est l'église de Philadelphie. C'est l'église de Philadelphie, verset 7 du chapitre 3. Le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Que j'aime ça. Il dit, j'ai ouvert la porte pour que vous puissiez atteindre le monde. C'est la porte qui est grande ouverte. Et tant que l'Église est engagée à passer par cette porte et à mener Jésus-Christ avec eux dans le monde, quoi qu'il arrive, même si la synagogue de Satan est là, même si le temps de l'épreuve vient, cela ne va pas affecter l'Église. Écoutez, mes bien-aimés, l'évangélisation est un bouclier. Elle nous fait nous surpasser. Cela nous aide à dépasser nos inhibitions. Elle crucifie notre fierté. Et puis, il y a cette petite Église, au début du chapitre 2, l'église de Smyrne. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Ils étaient calomniés. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Bien-aimé, si nous devons être confrontés au monde et prendre ce qui vient, si nous sommes enthousiastes pour amener des personnes au Christ, nous pourrons rester aux côtés de Smyrne et de Philadelphie et ne pas tomber dans le piège de ces 5 autres églises. Dieu nous aide à être vigilants sur la façon dont Satan attaque. Prions. Père, nous savons que le jugement doit commencer dans la maison de Dieu. Aide-nous, Père, à être attentifs et conscients. Seigneur, préserve cette Église pour ta seule gloire, afin qu'elle soit un témoignage continu de ta grâce. Nous avons vu tant d'églises autour de nous mourir. Tant d'entre elles ont disparu. Seigneur, ce n'est pas notre désir du tout. Cela ne te rend pas gloire. Dieu nous aide à être fidèles, à maintenir ce premier amour, à ne jamais faire de compromis avec le monde, à ne jamais tolérer le péché, à ne jamais substituer la réalité à l'apparence, aux activités, au fonctionnement et à l'organisation, pour ne jamais être remplis de fidèles tièdes. Aide-nous à être réels. Fais ton œuvre au milieu de nous. Tandis que tu crées et façonnes ces lampes, permets que les nôtres puissent être de celles qui brillent pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.